Vous écoutez RTL.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Confidentiel. Très heureux de vous retrouver en ce début d'après-midi sur RTL. On va passer une heure ensemble à remonter le fil d'une vie célèbre, tout ce qui a fait la gloire, la richesse d'un homme ou d'une femme, sans perdre de vue que les rouages du succès parfois se grippent et se coincent. Plus de 30 ans après sa mort, l'acteur dont nous allons parler reste toujours l'amuseur public numéro un, l'un des comiques les plus aimés des Français. Sa vie, pourtant, comme toutes les vies, ne fut peut-être pas tout à fait celle qu'on croyait. Qui se cachait vraiment derrière le gendarme Cruchot ou l'épicier de la rue Poliveau? Qui était vraiment Fufu? Confidentiel Louis de Funès, c'est tout de suite sur RTL.
RTL. Jean-Alphonse Richard, Confidentiel.
Louis de Funès.
Louis de Funès ne fut jamais un vrai comique. Il portait en lui trop d'inquiétudes, d'interrogations, de doutes, pour que sa vie ne se résume qu'à un simple éclat de rire. Personne ne s'en doutait. Mais le plus bavard des acteurs français cultivait aussi le plus secret des jardins. Louis Germain David de Funès de Galarza est né dans un appartement sombre et biscornu de Courbevoie. Cette famille-là semble tout droit sortie d'une comédie d'Eugène Labiche. Louis est le troisième enfant de Carlos de Funès de Galarza, un avocat espagnol désargenté, et de Léonore Soto, jeune femme issue de la bonne société madrilène. Carlos et Léonore se sont exilés en France pour vivre ici une histoire d'amour interdite par leur famille et se marier. Louis de Funès a pour modèle un père totalement fantasque et inconséquent. Tour à tour éleveur de poulets et revendeur de pierres précieuses. Incapable de ramener le moindre centime à la maison. Mon père avait un humour froid, avec des mots qui sont comme des hachettes. C'était très drôle, dira Louis de Funès. À peine adolescent, de Funès est confronté à sa première tragicomédie. Sur les bords de Seine, on vient de découvrir les bottes et le chapeau de son père, ainsi qu'une lettre d'adieu. Léonore de Funès portera 3 ans le deuil de ce mari désespéré avant d'apprendre que le mort était bien vivant. Qu'il avait pris la poudre d'escampette au Venezuela, parti non pas pour une autre femme, mais pour cacher sa honte de laisser sa famille dans la misère. Léonore, folle de rage, ira jusqu'à Caracas chercher son époux désespéré et le ramènera à la maison où sa santé fragile déclinera inexorablement. À l'âge de 20 ans, Louis de Funès se retrouve ainsi orphelin de père. Il est encore tout jeune, mais c'est comme s'il avait déjà vécu plusieurs vies. Au pensionnat Jules Ferry à Coulommiers tout d'abord, son physique malingre, son nez allongé et son regard sans cesse apeuré font de lui le souffre-douleur de l'internat. 3 années où il apprendra l'adversité, les mauvais coups de ses camarades, la méchanceté de ses professeurs. Il sortira balafré de ces années et à partir de là cultivera pour toujours une solide aversion pour les donneurs d'ordre, la rigidité des règlements et l'obligation de marcher droit. Pas un sou à la maison et une école qui ressemble à une prison. Heureusement pour Louis de Funès, il y a sa mère, Léonore, toujours là quand il le faut. De Funès lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Elle va être la première source d'inspiration de son génie comique. Enfant, il a assisté à des scènes de ménage dantesques. Il imitera bientôt ses changements d'intonation spectaculaires. Colérique, autoritaire et abusive, Léonore de Funès préfigure la silhouette de Don Salluste, l'exubérant grand d'Espagne de la folie des grandeurs.
Mais qu'est-ce que j'ai fait ?
Un enfant !
Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui est-ce ?
Vous aider à reconnaître cette bébé de Madame Donneur ?
Je ne peux pas le reconnaître, je ne le connais pas !
Ya 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 ya
nada, nada, jamais, rien. Majesté, t'assiste à une colossale conspiration.
Dernier hommage à cette mère à qui il doit tout, Louis de Funès appellera un jour sa propriété de Deauville, du nom du village natal de cette femme, Santa Maria di Ortigueira.
Jean-Alphonse Richard.
Louis de Funès entre dans ses 20 ans et il ne fait pas encore des rêves de théâtre ou de cinémascope. Condamné à la débrouille, de Funès a été renvoyé de l'école de photographie, renvoyé aussi de l'école nationale de la fourrure pour un motif des plus fantaisistes, cruauté mentale à l'égard du canari du directeur. Sa mère Léonore, bigote invétérée, aimerait que son fils devienne prêtre. Mais Louis de Funès préfère multiplier les petits boulots, manutentionnaire, étalagiste et surtout pianiste de jazz dans le Paris d'avant-guerre. Musicien, Louis de Funès aurait pu en faire son métier. Il ne connaît rien du solfège, mais c'est un authentique virtuose. Il va longtemps écumer les bars parisiens, les restaurants et les fêtes familiales à la poursuite de maigres cachets. Pendant l'occupation, il partage son piano à l'Horizon, un petit club du quartier de la Madeleine, avec un certain Édouard Ruault, playboy inventif et malicieux, qui se fera un jour appeler Eddie Barclay. De Funès et Barclay vont passer toute la guerre à jouer clandestinement du jazz dans les caves parisiennes et resteront les meilleurs amis du monde. Si Louis de Funès a échappé à la conscription puis à la mobilisation en raison de sa constitution malingre et de ses poumons privés de souffle, il n'a pas échappé au regard d'une jeune femme. Elle s'appelle Germaine Carroyer. Ancienne championne de tennis, vendeuse dans un bazar près de la gare Saint-Lazare. 21 ans, 2 ans de moins que Louis de Funès. Les deux amoureux se marient juste avant la guerre. De cette union de jeunesse, amour sincère et partagé, va naître un fils, Daniel de Funès. Cette première épouse et ce fils vont rester très longtemps l'un des secrets les mieux gardés de Louis de Funès. Une ombre portée dont les contours demeurent encore flous. La guerre et la débâcle font voler en éclats ce ménage de jeunesse et Louis de Funès disparaît. On l'a attendu, il n'est jamais revenu, racontera Daniel de Funès. Ce premier fils ne conservera qu'une poignée de souvenirs disparates de son père, quelques rencontres furtives et sans lendemain, une ou deux invitations sur des plateaux de tournage, une visite rapide quand Daniel de Funès sera père à son tour. Ce fils oublié et cette femme dont il divorcera en pleine guerre grâce à l'entremise de sa propre sœur ne seront pas prévenus des années plus tard du décès de l'acteur. Daniel apprendra la mort de son père en voiture en écoutant la radio. Ni lui ni sa mère ne seront invités aux funérailles. Louis de Funès tournera vite la page de ce passé lointain. Longtemps, l'acteur sera présenté comme le mari d'une seule femme, Jeanne Barthélémy, rencontrée dans un cours de musique où elle travaille comme secrétaire. Les fiançailles seront célébrées au cœur de la guerre chez une tante de Jeanne dans le château de Clermont près de Nantes, cette bâtisse qui deviendra un jour le refuge intime et bucolique de l'acteur. Le mariage suivra, Jeanne sera une épouse jalouse et attentionnée, la mère de leurs deux garçons, Patrick et Olivier. Quand enfin le succès pointera son nez, Jeanne de Funès se transformera en redoutable impresario.
RT.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Louis de Funès.
L'enfance, la jeunesse et les premières années d'une vie d'homme pour Louis de Funès qui va devoir attendre encore longtemps pour devenir célèbre et être enfin surnommé Fufu. On parle de Louis de Funès dans ce confidentiel qui lui est consacré avec quelqu'un qui porte le même nom que lui. Laurent de Funès, bonjour et bienvenue sur RTL.
Bonjour, merci.
Vous êtes donc évidemment le petit-fils de Louis de Funès, vous êtes vous-même acteur, vous avez participé à la réalisation d'un très beau livre, Louis de Funès, aux éditions Flammarion. Votre père, c'était, on le précise, Daniel, le premier fils de l'acteur, fils quasi secret. Votre père est aujourd'hui décédé. Quel souvenir gardait-il de Louis de Funès?
Oui, alors effectivement, mon père était le fils aîné donc de Louis, donc son premier fils. Il se voyait souvent lorsqu'il était jeune, ils rigolaient beaucoup ensemble. Après, les choses se sont un peu gâtées et les rapports se sont un peu tendus entre eux, mais je dirais principalement avec la deuxième femme qui était Jeanne, qui a souhaité un peu éloigner le premier fils. Et puis nous, par la même occasion, on se voyait en cachette en fait. C'était la seule solution.
Est-ce que votre père a souffert de cette mise entre parenthèses?
Oui, il en a beaucoup souffert. Quand ça a commencé à s'envenimer, il est devenu effectivement beaucoup plus sombre au sujet. D'ailleurs, il n'aimait pas qu'on en parle à la maison et ça le peinait beaucoup.
Alors, ces premières années de Louis de Funès, il ne sait pas très bien ce qu'il veut faire finalement.
Oui, il fait plein de petits boulots. Il a fait étalagiste, il a fait fourreur, pianiste de bar. Et c'est ça qui lui a ouvert les portes principalement parce qu'il a fait des rencontres, notamment Daniel Gélin qui s'est intéressé à lui. Et même Marthe Mercadier, elle me dit « quand j'ai vu ton grand-père faire le pianiste, je me suis dit qu'il avait un truc ce gars-là. » Je crois qu'il a toujours aimé faire acteur, il a toujours voulu le faire. Et on verra dans le cours de l'émission tout ce qui a pu se passer, mais c'est vrai que même Jean-Jacques Gélo-Blanc, qui connaissait bien toute sa vie, on en a beaucoup parlé, même avec Michel Galabru, il m'a dit que ça a été vraiment très long et très épuisant pour lui, même moralement parlant.
D'entrée, on le remarque, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe avec ce petit bonhomme.
Oui, on le remarque, parce que d'abord, il est très concentré, il a une densité. Je me demande si c'est pas le fait des petits, ça. Vous savez, les petits, c'est plus petit, donc c'est plus dense. Il faut compenser. Donc, c'est peut-être à ce moment-là. Il y a une concentration terrible chez lui dans tout ce qu'il fait. Il ne souhaite pas être dérangé. Même Marthe Mercadier s'en ouvrait à moi. Elle m'a dit « qu'est-ce qu'il était chiant, ton grand-père, sur un plateau ?» Elle m'a dit « fallait toujours qu'il surveille tout, point par point. Il était minutieux. Il fallait que tout soit très, très précis. » Et ça, c'est vrai qu'il avait cet amour de la précision et qu'on retrouve aussi quand il fait des gags, quand il va travailler des gags et autres. Il les fait très précisément, ce qui peut parfois irriter certaines personnes qui seraient plus laxistes sur leur métier, sur leur boulot.
Confidentiel Louis de Funès avec Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Pour le moment, pas de vie de château pour Louis et Jeanne de Funès qui tirent le diable par la queue. Louis continue à cumuler les petits boulots, étalagiste le jour, pianiste la nuit, et Jeanne donne des cours de tango dans l'appartement de la rue de Miroménil. Le déclic vient d'une rencontre dans le métro. À une station près, le destin de Louis de Funès aurait peut-être bifurqué. Ce jour-là, il croise un ancien camarade avec qui il a pris quelques cours de comédie. Daniel Gélin, apprenti acteur, lui propose un petit rôle au théâtre. Le hasard fait bien les choses, le rôle est celui d'un pianiste. L'amant de paille sera la première pièce jouée par Louis de Funès devant un public clairsemé. Louis de Funès a déjà 28 ans et devient donc le figurant idéal du théâtre et du cinéma. Sa silhouette frétillante se glisse dans les pièces de boulevard et se faufile sur les plateaux de tournage. Les apparitions sont fugitives, chauffeur de maître, cuisinier sur un paquebot révolutionnaire, apparition dans 31 films en seulement 4 ans. Louis de Funès court après le moindre cachet sans se soucier vraiment de la qualité. Du Guesclin, Mon ami Saint-Foin, Pas de vacances pour Monsieur le maire ou Mon frangin du Sénégal, autant de films tournés, autant de navets oubliés. Louis de Funès est omniprésent, mais personne ne le voit vraiment. Tel est le sort cruel réservé au second rôle. Mais le vent tourne. Il y a eu tout d'abord le succès au théâtre, La Puce à l'oreille, puis le triomphe avec Jacqueline Maillan dans A, Les Belles Bacchantes, une comédie loufoque. 900 représentations, 3 ans à l'affiche. Puis ce rôle qui va tout changer. Une seule scène va faire de lui un véritable acteur. Dans La Traversée de Paris, l'épicier Jambier du 45 rue Poliveau sera tout aussi célèbre que ses partenaires Jean Gabin et Bourvil.
Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau, pour moi, ce sera 1000 francs.
Patron, faites comme s'il n'était pas là. Vous me donnez 900 francs, je m'arrange avec lui.
Écoutez, Martin, tant pis, je perds 1000 francs, mais vous allez me foutre le camp, vous et votre petit ami, dont vous êtes absolument sûr.
Mais laissez donc, il ne sait pas ce qu'il dit. Vous voyez bien que c'est une cloche.
Pas sûr. Moi, il fait peur, ce type-là. D'abord, il a des dents en or.
Et après?
Et si c'était un flic, hein?
Ah, un vrai ou un faux?
Pousse-toi, je m'en fous bien, c'est pareil.
Louis de Funès se fait un nom. Et très vite, un surnom, Fufu. La presse s'intéresse à ce phénomène qui n'a vraiment rien d'un jeune premier, ni l'âge, ni le physique. Le Times de Londres le présente comme un nouveau Charlie Chaplin. Louis de Funès a beau avoir un style spectaculaire et détonnant, c'est un inquiet pathologique, taraudé par un doute épuisant. Il ne serait qu'un imposteur qui, en aucun cas, ne mériterait les applaudissements du public. De Funès pensera longtemps être entré par effraction dans le cinéma. En ce début des années 60, Louis de Funès va pourtant pouvoir chasser ses doutes. Dans un village de pêcheurs, rendu célèbre par Brigitte Bardot, il endosse l'uniforme du maréchal des logis-chef Ludovic Cruchot. Francis Blanche et Darry Cole ont tour à tour décliné ce rôle auquel ils ne croient pas, à tort. Le gendarme de Saint-Tropez va être le premier sacre de De Funès, une saga française. 6 gendarmes au total, le dernier, Le Gendarme et les Gendarmettes, 1982, sera l'ultime film d'un De Funès malade, amaigri et chancelant.
RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Louis De Funès.
À vos ordres! Mon général!
À vos ordres, mon général!
Manager!
Manager!
Tous les matins, vous réciterez un éloge à ma grandeur en alexandrin, 12 pieds, et que ça rime!
Ça rimera, mon général!
Avec le gendarme Cruchot, Louis de Funès devient immédiatement célèbre. Fantomas, le Cornio, ou encore la Grande Vadrouille. Le record absolu d'entrée dans les salles françaises pendant plus de 30 ans. Seuls les cahiers du cinéma seront assassins à la sortie du film. C'est le film le plus mauvais de l'année, inutile de se déplacer. La Grande Vadrouille, sélectionnée pour les Oscars à Hollywood, ne sera pas récompensée par les Américains, mais Louis de Funès pourra parader et les metteurs en scène se disputer le fufu national, élevé au rang de maître absolu du comique. De Funès fait rire, commence à gagner beaucoup d'argent, mais derrière le masque, c'est un bouffon aux aguets. Le comédien n'a aucune confiance en lui. La célébrité le submerge. Il demande sans cesse des gros plans sur ses yeux bleus. Se vexe si le scénario ne le met pas suffisamment en valeur. Dicte à l'avance ses volontés. Sur les plateaux, le manque d'assurance de Louis de Funès passe pour de l'arrogance. Jean Marais le jalouse et ne l'aime pas. Jean Lefebvre quitte le tournage du gendarme en annonçant qu'il ne servira plus la soupe à Monsieur de Funès. Jean Gabin ne le comprendra jamais, au point que de Funès avouera « Ça ne collait pas entre nous. Par timidité, je lui disais vous, il me tutoyait. Il aurait été beaucoup plus gentil avec moi si je l'avais tutoyé. » Louis de Funès n'a pas la carrure pour affronter les vents violents de la célébrité. Le succès lui est tombé dessus à la cinquantaine, sans prévenir, avec ses perversions, ses mauvais côtés. À l'été 68, un inconnu le menace au téléphone, demande une rançon. La police interpellera quelques semaines plus tard un maître chanteur spécialisé dans les célébrités. Il avait déjà tenté de rançonner Fernand Reynaud, d'enlever Johnny Hallyday et pénétrera un jour armé dans un studio de RTL pour braquer l'animateur maison Max Meynier. Dans ce tourbillon, Louis de Funès se décide à engager un garde du corps, un ex-tolard et ancien catcheur qui sera son fidèle chauffeur. Mais surtout, il aime se réfugier dans l'écrin de verdure du château de Clermont, là où il avait fait ses premiers pas amoureux avec Jeanne. Avec ses premiers cachets, il a racheté la bâtisse qui commençait à se lézarder. Il y règne comme un gentleman farmer qui soigne ses rosiers, dépose une à une les coccinelles sur chacune des fleurs et interdit les parties de chasse sur le domaine. Clermont est un havre de tranquillité et de repos. Même si avec deux funesses, l'inquiétude revient toujours au galop. Comme cette hantise des rôdeurs qui menacerait le château, il enferme lui-même les 365 fenêtres, verrouille les portes et passe son temps à changer les serrures. Rattrapé par les idées royalistes après avoir flirté dans sa prime jeunesse avec celle du Front populaire, Louis de Funès craint aussi les révolutions. En mai 68, paniqué par une grève sur le tournage du Gendarme se marie, il demandera au réalisateur d'aller déterrer à Clermont un sac rempli de lingots d'or, au cas où les émeutiers lui prendraient tout.
Bonjour, c'est Julien Courbet.
Ça peut vous arriver.
Entre 9h30 et 11h, du lundi au vendredi sur RTL, il existe une émission où nous réglons vos problèmes et vous suivez toutes les négociations en direct. 9h30, 11h sur RTL.
Ça peut vous arriver avec Julien Courbet. C'est chaque matin de 9h30 à 11h sur RTL.
Confidentiel.
Sur RTL.
Dans ces années 60-70, Louis de Funès devient donc l'une des vedettes les plus courtisées du cinéma français. Pour en parler dans ce confidentiel qui lui est consacré, son premier petit-fils, Laurent de Funès, quel est le déclic qui fait de Louis de Funès une véritable star ?
Le véritable point déclencheur, en fait, c'est les gendarmes de Saint-Tropez. En 1964, c'est le début de la consécration de tous ses efforts. Avant, il ne fait plein de petits rôles, même plein de rôles, second rôle, mais il a du mal à percer. C'est-à-dire qu'en fait, on refuse même de lui donner des premiers rôles. Les gendarmes de Saint-Tropez, aucun producteur ne voulait de lui pour le premier rôle. Jean Giraud a pensé à mon grand-père et ils ont dû monter leur propre société pour faire accepter mon grand-père dans le premier rôle.
C'est-à-dire qu'à l'époque, Laurent de Funès, personne ne croit en Louis de Funès.
Ils y croient, mais pas comme un premier rôle. Ils se disent, ce petit bonhomme est très bien, mais on se dit toujours, non, le de Funès, c'est un très bon second rôle, parce qu'il faisait beaucoup de second rôle. Et on ne veut pas lui donner sa chance, le cinéma lui ferme les portes.
Et qu'est-ce qui change pour lui dans sa vie à Louis de Funès avec le gendarme Cruchot ?
D'un seul coup, c'est la consécration de son talent, parce que là, on voit que tout son système de jeu est parfaitement en place. Il a eu le temps de le mettre en place et là, il explose. Finalement, c'est toujours le public qui décide, c'est la salle qui décide. Les producteurs se sont dit, mince, on s'est trompé, il va falloir qu'on rectifie très vite. Et à tel point qu'après, il a enchaîné 3 films par an, les succès sont venus. L'année 64 a été vraiment le démarrage de tout ça.
Alors, Louis de Funès, évidemment, fait rire, mais il n'a pas un caractère tout à fait facile sur les plateaux de cinéma. Il est très exigeant ou il est très timide
Les deux à la fois, mon colonel, exigeant et timide. Effectivement. L'approximation, c'était pas son truc. Galabru, il me parlait beaucoup de son Louis. Il me dit, quand ton grand-père arrivait sur le plateau, il me dit, il y avait une tension, parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait. Il recommençait 10 fois, 20 fois une prise. D'ailleurs, il me dit, on était épuisés. Mais lui, il savait que la prise n'était pas bonne. Et au moment où il avait dit, là, elle est bonne, il dit, force est de constater qu'il avait raison.
Alors, une énergie débordante, vous venez de le dire, même si Louis de Funès n'a pas une santé forcément très robuste.
C'est pas comme ça que je le définirais, je dirais qu'il était très solide. Imaginez-vous faire ce qu'il faisait
avec l'énergie qu'il y mettait. Le film, les théâtres, jouer la pièce Oscar de telle façon, tous les soirs, une précision, une générosité de jeu. La valse des toréadors, pareil, une folie qui durait 2h30. Et en plus, c'est quelqu'un d'anxieux. Il paraît qu'il passait son temps pour peaufiner tous ses gags la veille. On le voyait pas, il dîna vite fait. Il revenait le lendemain avec des idées. Mais à un moment donné, ça craque.
Louis de Funès qui fait rire. Puis Louis de Funès un peu plus secret, un peu plus intime. Un mot sur Clermont, son château.
Il adorait les roses. Il adorait jardiner. Son jardin, il cultivait plein de légumes, plein de roses. Il était déjà écologique avant l'heure. Mais comme il avait senti la conscience du rire avant l'heure aussi, il avait imposé une forme de comique. Bah, je crois qu'il était en avance sur beaucoup de choses.
RTL. Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Louis de Funès, roi du rire, châtelain discret qui va à la messe le dimanche, mari fidèle et père comblé. Voilà le portrait systématiquement dressé de lui dans les journaux. Le cliché est pourtant trompeur. De Funès a réussi à escamoter sa première épouse et son premier fils, et le voilà sur le point de s'engager peut-être, en ce début des années 70, dans une double vie. En passant des heures, la nuit, à écouter la radio, Louis de Funès a été touché par la voix d'une animatrice.
Eh bien, je viens vers vous afin de rejoindre vos rêves sous les étoiles, certains de vos désirs ou quelques-unes de vos nostalgies.
Il a donc tout fait pour rencontrer cette Macha Béranger. Il la croise enfin à la faveur d'un cocktail mondain. Louis et Macha deviennent amis, puis amants. Une relation secrète dans une suite de l'hôtel Intercontinental, puis dans un studio loué par la production du gendarme. Officiellement, Macha Béranger est là pour travailler avec l'acteur certaines scènes et dialogues. L'un des gendarmes, l'adjudant Gerbert, Michel Galabru, racontera que lors d'un tournage, Fufu avait demandé que sa loge soit installée au rez-de-chaussée afin que Macha puisse s'enfuir au cas où Jeanne débarque sans prévenir. Louis de Funès avait dit à Macha Béranger qu'il ne divorcerait jamais de Jeanne. Devenue sa productrice, sa comptable et la plus redoutable de ses agents, Jeanne aura finalement vent de cette liaison et aura le dernier mot. Elle réussira à remettre dans sa cage son oiseau de mari qui ne s'était jamais vraiment envolé. Macha Béranger sera un jour dévastée par la mort de son amant célèbre. Elle ne voudra jamais évoquer cette liaison, mais continuera à communiquer secrètement avec Louis de Funès lors d'extravagantes séances de table tournante et de spiritisme.
Confidentiel, Louis de Funès sur RTL. Confidentiel.
Confidentiel.
Sur RTL.
Jamais Louis de Funès ne s'est senti aussi éreinté qu'en ces années 70. Les tournages incessants, la farouche volonté de rester en haut de l'affiche, la peur d'être oublié, tout cela a fini par l'user. Mille fois, il s'est remis en question, de plus en plus mal à l'aise, culpabilisant à l'idée d'être trop bien payé, puis obsédé par son image d'acteur qu'il n'aime pas. Louis de Funès est sur le qui-vive, rongé par la méfiance, prompt à piquer quelques colères et à tourner soudain le dos à ses meilleurs amis, de plus en plus imprévisible, tout sauf un homme tranquille. Il est insomniaque. Le sommeil passe encore, dit-il, mais je ne peux pas me passer de silence. Alors, je vais à la pêche, j'ai remarqué que personne n'adresse la parole aux pêcheurs. Louis de Funès atteint les rivages de la soixantaine et se rebelle. « Je vais gommer mes grimaces d'autrefois. Je cherche à devenir plus sobre », déclare-t-il dans une interview. Il ajoute « Pendant 18 ans, j'ai été le gugus à qui l'on dit « fais ça » comme à un singe savant. Mais de quel droit un metteur en scène peut-il donner des ordres à un acteur comique ?» Mais il est trop tard. Cette vie à 100 à l'heure, bondissante et exubérante, l'a éreinté. L'acteur ne le sait pas, mais c'est un cœur de vieillard, d'athlète brisé qui bat en lui. Au printemps 1974, il s'effondre. Deux infarctus successifs. Il passe 2 mois et demi au service cardiologie de l'hôpital Necker. Je me revois dans l'ambulance. Une seconde avant, j'étais un homme crispé sur les recettes, les entrées, les contrats, confie-t-il à l'Express. Et voilà que je tournais la page. D'un seul coup, définitivement, je n'étais plus Louis de Funès. Je n'étais plus rien. Un an avant que son cœur ne lui joue des tours, De Funès avait dansé de façon effrénée dans les aventures de Rabbi Jacob. Pour parvenir à ce tour de force, il avait enfilé des chaussons, pris des cours de ballet et appris le yiddish. Louis de Funès revient désormais dans le monde des vivants, mais c'est une ombre fragile, une silhouette mal assurée et craintive. Il a été contraint de disparaître du théâtre où il jouait la valse des toréadors. Il a dû renoncer à tourner dans un nouveau film de Gérard Houry, Le Crocodile. Presque plus aucun producteur n'accepte d'assurer cette star au cachet de plus en plus faramineux, car elle pourrait s'écrouler en plein tournage. L'obscurité semble peu à peu envelopper Louis de Funès. Sur ses derniers plateaux, il ne peut plus tourner que quelques heures par jour tant ses jambes ont du mal à le porter. Il reste donc le plus souvent assis. Son visage s'est brutalement creusé et c'est comme si son regard si pétillant portait désormais un éternel voile de mélancolie. Au mois de janvier 1983, Louis de Funès se retrouve en famille dans la station de ski des Arcs. Son ami Thierry Leluron lui a conseillé d'aller respirer le grand air. Mais à la montagne, il prend froid. Il rentre donc au château de Clermont. La fièvre ne retombe pas. Il frissonne, mais en fin de matinée ne tient pas en place. Il enfile un passe-montagne. Il lui faut faire une promenade dans le jardin. C'est un jeudi glacial de janvier 1983, la dernière fois que l'on aperçoit la silhouette de Louis de Funès, promeneur solitaire au milieu des rosiers. Quelques heures plus tard, il s'effondre. Cette fois, son cœur ne repartira pas. Louis de Funès ne tournera jamais le film auquel il rêvait, un film muet qui l'aurait réconcilié avec le silence.
Enlevez ça! Ben, ça vous plaît, j'espère.
Tous vos airs sont d'une gaieté extraordinaire.
C'est ma nature. Je suis un optimiste.
Vous avez dû écrire de merveilleuses chansons d'amour.
Oh, comme tout le monde.
Quand on s'est rencontrés, l'amour et moi, on n'a rien fait pour ça, ni lui, ni moi. Ça s'est fait simplement sans tralala. On l'a voulu comme ça, mon cœur et moi. Le temps de se regarder pour faire connaissance, le temps de se prouver qu'on avait bien de la chance, le temps de 3 baisers sur ma main qui tremblait. Il m'avait emmené dans un coin qu'il aimait. Jamais rien ne changera, on l'a voulu comme ça, mon cœur et moi. Je l'avais attendu comme on attend le pire. Je me demandais si j'allais pleurer ou rire. Mais quand il est venu en fait d'une explosion, je n'ai senti qu'un tout petit frisson. Quand on s'est rencontrés, l'amour et moi, on n'a rien fait pour ça, ni lui, ni moi. Ça s'est fait simplement sans tralala. On l'a voulu comme ça, mon cœur et moi. Le temps de se regarder et pour faire connaissance, le temps de se prouver qu'on avait bien de la chance, le temps de 3 baisers sur ma main qui tremblait. Il m'avait emmené dans un coin qu'il aimait. On s'est fait un cadeau, l'amour et moi. On est heureux comme ça, mon cœur et moi. Et tant qu'il y aura de la fumée sur les toits, jamais rien ne changera. On l'a voulu comme ça, mon cœur et moi. On s'est fait un cadeau, l'amour et moi. On est heureux comme ça, mon cœur et moi. Et tant qu'il y aura de la fumée sur les toits, jamais rien ne changera. On l'a voulu comme ça, mon cœur et moi.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Voilà donc pour la carrière époustouflante de Louis de Funès, dont chaque rediffusion de film attire toujours en masse les téléspectateurs. Laurent de Funès, petit-fils de l'acteur, avec nous dans ce studio RTL. Louis de Funès est quasiment mort sur scène et jusqu'au bout, il a essayer de tourner.
Jusqu'au bout de ses forces. Ma mère m'a remis dernièrement des lettres qu'il nous envoyait, et notamment une qui date de 1975, après son infarctus. Et il évoquait les problèmes d'assurance pour les tournages. Il était très inquiet de ne plus pouvoir tourner.
Quel film a-t-il préféré tourner, Louis de Funès, votre grand-père ?
Là, en revanche, j'ai du mal à vous répondre, parce que je crois qu'il adorait les Houris qu'il a fait. Ils avaient une complicité de tous les instants, l'écriture était fantastique. Je reconnais quand même, quand vous regardez un Houri, force est de constater qu'il n'y a pas grand-chose à acheter. Hein. C'est des sagas, c'est fantastique.
Est-ce qu'il a souffert, Louis de Funès, de ne pas avoir finalement un grand rôle tragique ?
Je ne pense pas. Ça a été écrit, ça. Il admirait énormément Bourvil pour sa capacité à faire rire et à émouvoir en même temps. Et il trouvait qu'il n'avait pas cette capacité. Il disait que Bourvil, il avait quelque chose de plus, un je ne sais quoi de tendresse qui ajoutait à son registre. Moi, je n'ai qu'un seul registre. Quand vous avez conscience de ça et que vous êtes au sommet de votre art, et dire que vous allez vous d'un seul coup essayer de faire quelque chose de différent, c'est prendre un énorme risque. Il savait que quand on est en haut, on peut redescendre très vite. Et je crois que ça l'angoissait terriblement.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Louis de Funès ? C'est quoi ? C'est le gendarme de Saint-Tropez ? Les Gérard Houry ? La Grande Vadrouille ?
Bon, c'est un peu tout. C'est un peu tout. Vous avez aussi bien les gendarmes qui ont marqué une époque. Vous avez aussi Hibernatus, donc Molinaro. Puis vous avez bien évidemment tous les Houry. Pour moi, ça clôt définitivement le génie de mon grand-père. Cet humour, c'est cette inventivité qu'on peut trouver dans chaque instant. Toutes ces choses qu'il a amenées dans La Folie des Grandeurs, La Grande Vadrouille... Et puis Rabbi Jacob, bien évidemment.
Est-ce qu'il avait des regrets à la fin de sa vie, Louis de Funès ?
Oui, il avait des regrets, certes, de ne pas nous avoir vus plus. Et il s'en était ouvert d'ailleurs à un vieux monsieur que je ne connaissais pas. Ce monsieur était attaché de presse sur ses films. Et là, il me dit « Je voulais vous voir, Laurent, parce que j'ai bien connu votre grand-père et qu'il était très, très peiné sur la fin de sa vie de ne pas avoir réussi à réunir ses deux familles. Ça le blessait énormément. La claque que j'ai prise ce jour-là, c'était lourd. »
Et vous, Laurent de Funès, aujourd'hui, vous suivez finalement les traces de votre grand-père, Louis de Funès ?
Oui, tardivement, mais ça a l'air d'être une affaire de famille, le côté tardif dans ce métier. Puisque j'ai décidé de monter sur les planches, donc je joue un spectacle, un seul en scène dans 3 mois, qui va s'appeler « De Funès, haute tension ». Comment j'en suis arrivé à ce métier, avec tous les déboires que j'ai pu avoir liés à mon nom. Et puis un autre film qui s'appelle « Dumpy Toys » et qui va sortir sur les écrans mi-juillet. C'est donc un film d'Éric Atlan.
Voilà, Louis de Funès, haute tension, ça, c'est un titre qui va bien à votre grand-père. Merci Laurent de Funès de nous avoir guidés sur les pas de votre grand-père Louis de Funès et de ses secrets. Confidentiel, c'est terminé. On se retrouve avec toujours un immense plaisir la semaine prochaine, même heure, avec des initiales mythiques qui ont fait le tour du monde. Bébé, confidentiel Brigitte Bardot.